Marseille, c'est une ville... C'est la mal aimée, c'est la mal comprise. Hein. C'est le petit Chicago. Parce qu'il y a une chose, c'est qu'à Paris, quand il y a des règlements de compte, dans les calibres, ils mettent des petites... je sais pas moi, des prunes. Non, mais ils font pas du mal. C'est des 11,43 très, très tendres. Le mec, il tombe, il fait semblant de mourir. Ici, non, il meurt pour de bon. Pas vrai?
Box. L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À bon Richardo.
À défaut de réinventer le futur, chaque samedi à 19h sur France Culture, Jukebox ressuscite le passé via un texte, des archives et des musiques choisies. Ce soir, Marseille autrement, non pas la ville rail ou hip-hop qu'elle deviendra les décennies 80 et 90, mais celle d'avant, la cité rock des années 60 à 80 et qui raconte l'errance et la débrouille d'une ville en marge. Snobée par les grandes maisons de disques, subissant déjà un manque chronique d'investissement culturel, Marseille, sa pauvreté, ses grands ensembles, voit ces décennies l'avènement de micro-cénacles rock, punk ou new wave. Des scènes longtemps oubliées en raison de la faible durée de vie de beaucoup de leurs groupes et que ressuscitent dans deux ouvrages les éditions Le Mot et le Reste. Dans cette histoire, on croisera un barreau de chaises, des caves voûtées, une manifestation de blousons de cuir sur la Canebière et des séparations prématurées. Ce soir, 1960-1980, la face rock cachée de Marseille. La dope circule sous le manteau, les bagnoles filent, courent lieuto. La ville semble sombrer sous un flot de béton, d'alcool et d'écho dispersé par le mistral en pleine face, loin des bourgeois, dans leur villa classe. Tandis que Belzins ou Noailles s'encrassent, Marseille ne tient plus en place. Des canettes froissées, des cuirs dans la nuit, des promesses de comptoir, des partis pris, des paris, la main sur le cœur, l'urgence pour seule humeur, le Far West, Kennedy, même pas peur. ovni de la scène marseillaise, la Cold Wave à la Joy Division du groupe Martin Dupont pour ce Just Because de 1984.
Depuis ce matin, à mon réveil, je suis comme un volcan.
Mais revenons 25 ans plus tôt, dans cette France de la toute fin des années 50, dont la jeunesse s'entiche soudain du rock'n'roll venu droit des États-Unis. Elvis, mais aussi Bill Haley, Buddy Holly, Little Richard ou Chuck Berry qui engendrent la création des premiers groupes tricolores. Les Chaussettes Noires d'Eddie Mitchell, les Niçois des Chats Sauvages emmenés par Dick Rivers ou bien encore Danny Boy et ses Pénitents. Plus encore qu'un manifeste anti-système, le rock est alors une expérience sensuelle qui permet de tomber les filles sans s'embarrasser de grands discours. À Marseille, le tout premier rocker recensé s'appelle Rocky Volcano. Né en 36 près du Vieux-Port, il voulait au début faire de la boxe, mais s'était finalement tourné vers la musique et ce début des années 60, on peut l'entendre chanter au cinéma Le Chave, où il plagie Ave Lassant, Elvis ou Eddie Cochran. En 1961, il publie un premier 45 tours sur lequel on trouve une reprise dispensable des 24 000 baisers de l'italien Celentano, mais aussi un tube qui devient son morceau fétiche intitulé « Comme un volcan ». Malgré un passage dans l'émission Discorama, la comète Volcano s'éteint aussi vite qu'elle était apparue. Rocky passe à côté de sa carrière, éclipsé par l'irruption juste au même moment de l'idole des jeunes, Johnny Hallyday, récupéré par Philips, par ailleurs label du Marseillais, comme dirait l'autre. De pur sang, ça fait trop dans une même écurie. Mais pour autant, la jeunesse marseillaise et ses blousons noirs locaux qui, faute de Lévi-Strauss, portent alors des imitations de blue jeans, réclament du rythme, ils ont envie d'en découdre. Peu à peu, les premières têtes d'affiche programment Marseille dans leur tournée, ainsi Gene Vincent qui passe au théâtre du Gymnase, et puis c'est Chuck Berry, et puis en 1966...
Du Mistral, il y en avait. De l'ambiance, il y en avait. De la musique, il y en avait. Des fans, il y en avait. Du bruit, il y en avait. Des yéyés, il y en avait. Des chevelus, il y en avait, pour accueillir ce matin à Marignane, qui ? Les Rolling Stones. Alors mes frères, ayons une pensée pour la salle Valier. Oh yeah !
Accueilli à Marignane ce 30 mars 66 par Le Vent et l'orchestre de la fanfare des étudiants des Beaux-Arts, les Stones viennent donner ce jour-là deux concerts salle Valier, ouvertes quelques mois plus tôt dans le quartier des 5 avenues et dont, par précaution, les gradins ont été fermés aux 1500 spectateurs cantonnés au parterre. Un groupe local, adepte du British Rock, les Why Not, assure la première partie des deux sets. Les Stones surfent alors sur leur premier grand tube, Satisfaction, Painted Black ou Under My Thumb. L'impatience est immense, tellement qu'au début du second concert des Stones, après trois ou quatre chansons, Mick Jagger se prend un barreau de chaise en pleine gueule, projectile qui visait peut-être un policier devant la scène, mais qui provoque une bonne grosse bagarre et la fin prématurée du concert. Après un passage à l'hôpital pour se faire suturer, Mick Jagger saute dans un train gare Saint-Charles avec ses comparses direction Lyon et la suite de leur tournée. À Marseille, il y a donc de l'énergie à revendre qui donne envie à d'autres groupes de se lancer dans la mêlée. Ainsi, les 5 gentlemen, composés d'autant de jeunes corses installés à Marseille, étudiant pour la plupart la médecine, à l'exception du batteur Michel Donna qui bosse comme poissonnier et vit dans un HLM. Look raffiné, propre, bien coiffé, portant la cravate, les 5 gentlemen déroulent d'abord un répertoire de reprises rock ou variétés se produisant dans les facs de médecine ou de pharmacie de la région. L'été 65, ils font le tour des boîtes de Calvi ou de l'île Rousse. À leur retour à Marseille, ils se produisent pour l'inauguration de l'Arsenal des Galères, le nouveau lieu de concert branché de la ville, une salle voûtée située sur le Vieux-Port, dont ils deviennent le groupe en résidence, jouant les samedis soirs et dimanches après-midi dans une salle pleine à craquer et une ambiance, paraît-il, surchauffée, où les couples d'un soir vont s'envoyer joyeusement en l'air dans les toilettes de l'établissement ou les bagnoles garées aux alentours. en 66, ses Drôles de Gentlemen, signe avec Riviera et publie Dis-nous Dylan, 45 tours, qui s'écoule à plus de 50 000 exemplaires, et puis un second, et puis un troisième, comprenant ce curieux LSD 25 ou Les Métamorphoses de Margaret Steinway.
Et lui voit des visages. Dans un monde étrange, elle se transforme et change. Miss Margaret Stenbridge. Petit carré de buvard mâché. Je l'appelle dans l'extase. Mais le temps d'un éclair est...
LSD 25 ou Les Métamorphoses de Margaret Steinway, évocation des petits carrés de buvard, la drogue qui irrigue alors Marseille, on est en plein règne de la French Connection, on y reviendra plus tard. La suite pour Les Cinq Gentlemen tournera au Bad Trip. Faute de vente suffisante, le groupe disparaît l'été 68, quelques-uns de ses membres choisissant de se reconvertir dans les orchestres de bal qui sillonnent alors la Côte d'Azur. Pour l'heure, cette fin des années 60, tandis que depuis Monaco, Radio Monte Carlo propage ses nouveaux rythmes venus d'outre-Atlantique, se développent à Marseille quelques groupes de style anglais, comme on dit alors, qui jouent, faute de salles dédiées, dans les cinémas de la ville, le Chave ou bien le Rex, rue de Rome. On trouve aussi à l'époque quelques dizaines de petits groupes semi-professionnels, souvent des fratries ou des bandes de copains qui cachetonnent auprès des premiers tourneurs qui les envoient les week-ends se produire sur la côte dans les boîtes de nuit. La Dolce Vita à 7, le Crack Boom U de hier, la Tomats près de Toulon. Ces groupes ont souvent une technique assez rudimentaire, jouent des reprises en anglais, les Shadows, les Stones, les Beatles, les Kings, etc., etc. Ces disques, les musiciens se les procurent notamment chez Discal, rue Pavillon, ou bien chez Le Maire, rue de la République. Mieux vaut être patient. Une fois commandées, les galettes tant convoitées mettent souvent des mois à arriver, alors en attendant, on les fait circuler. Quant aux instruments, ils les achètent chez Conconne, boulevard de la Libération, ou bien chez Gaffard. Des guitares allemandes, des Framus, puis, pour ceux qui le peuvent, les premières Stratocaster ou les basses Fender Precision, l'équivalent à chaque fois de près de 6 mois de salaire. À Marseille, ces groupes se retrouvent au Soupirail, une boîte de nuit de la rue Curiole dotée d'une immense cave voûtée, ou bien dans des bars du centre-ville, le Garibaldi, le Disque Bleu, avenue Pélatan, mais surtout au Central, à l'angle de la Canebière et du théâtre du Gymnase. Ces apprentis rockers y croisent les autres musiciens de la ville, à commencer par ceux des orchestres de bal et de variété, des musiciens qu'ils snobent. Pourtant, il peut y avoir des croisements entre les genres. Exemple avec Richard Kennings et Alain Gaude, qui, par le passé, avaient écumé les baloches de la région, mais qui, à la suite d'une rencontre avec l'ancien bassiste des Chats Sauvages, montent un groupe. Ce groupe, baptisé Choc, se produit à la Licorne. Dans la foulée, il signe avec le label Decca pour 3,45 tours. Sur le premier, sorti le jour de la mort de Jimi Hendrix, on trouve ce « I want you to be my girl » où suinte l'influence des Beatles. Par les éditions Le Mot et le Reste et un ancien chanteur que l'on recroisera sous peu, Robert Rossi, auteur il y a quelques années d'une précieuse histoire du rock à Marseille dans les années 60 à 80, la pop du groupe Choc avec ce I Want You to Be My Girl, sorti en septembre 70. Dans la foulée, pourtant, le groupe Choc disparaît. Ces années 70, Marseille est une ville pauvre, encombrée. Le centre-ville est congestionné. Les grossistes et les détaillants de fruits et légumes paralysent chaque semaine le cours Julien à l'est du Vieux-Port. Les bourgeoisies commerçantes, elles, ont fait leurs valises. L'industrie périclite. Transports urbains, équipements sanitaires, écoles, on manque presque de tout. D'autant que depuis l'été 62, les Français rapatriés d'Algérie sont arrivés en masse. 120 000 se sont fixés dans la ville, au grand dam du maire Gaston Defer, qui déclare alors que les pieds noirs aillent se réadapter ailleurs, qu'ils quittent Marseille en vitesse. On construit à la hâte de grands ensembles. Or, à cette époque, 40 000 familles attendent déjà un logement. Des milliers s'entassent dans des bidonvilles, on en dénombre 26, situés essentiellement au nord de la ville. Dans ces enclos, comme on les nomme à Marseille, vivront beaucoup d'étrangers, tunisiens, marocains, mais surtout algériens, lesquels seront officiellement 35 000 en 1975. Eux regardent avec envie les grands ensembles qui ont poussé à proximité et leurs promesses de confort moderne, même si rapidement apparaissent les premières fissures, comme au Marronnier en 1966.
Dans un grand ensemble marseillais qui abrite plusieurs centaines de familles, les Marronniers, une ménagère, madame, est-ce que vous êtes satisfaite des conditions de vie qui vous ont faites dans cet ensemble ?
Non, je ne suis pas satisfaite parce que d'abord les loyers sont très chers. On n'est pas logé comme on devrait l'être, vu ce que l'on paie. Bien sûr, le confort y est, mais par exemple, les chambres sont humides. Et puis, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Par exemple, on ne peut pas mettre ses draps sur les fenêtres le matin. Après 9h du matin, il ne faut plus avoir de linge au balcon. Et j'estime que c'est assez mal fait. Et puis, pour le bruit aussi, il y a beaucoup de bruit. Et ben, j'estime que ça ne devrait pas être.
Ah, moi, je m'y plais. On dit que c'est un peu loin de la ville, mon Dieu, on ne se déplace pas facilement, on n'a pas encore présent dans l'autobus, mais au début on n'en avait pas. Il n'y a qu'une chose qui manque, je vous dis, c'est l'ascenseur pour les personnes âgées.
La terre brûlée, souillée par le fer, ne peut rien donner. Sans vie, c'est l'enfer. Je remplis d'étoiles les sombres nuits. Village de toiles pour abri. Les Marseillais du groupe Santa Maria, La terre brûlée, 1971. Ces années 70, Marseille voit se multiplier quelques éphémères groupes de blues électrique, un peu à la Jimi Hendrix, qu'on songe à Expérience, L'Oiseau Nelson ou bien Carona Machination, dont le leader, cité par Robert Rossi, raconte « Tout le monde se tirait la bourre, tout le monde se critiquait, il fallait être costaud, on appelait ça des taillades, mais tout ça te faisait progresser ». Il y a aussi le rock fusion et déjanté du groupe Barricade autour du saxophoniste François Billard, anti-système, anti-tout et dont s'entiche un temps le magazine Actuel, les décrivant en 1972 comme des frics des marginaux, fantasques, brouillons, refusant les clubs trop routiniers ou les maisons de disques trop rapaces. Bref, ils sont underground. Marseille est une ville dure, il y a la drogue et la morphine venues de Turquie et qui transitent par les labos clandestins de la région pour y être raffinées, transformées en héroïne, avant d'aller inonder, via les soutes de chalutiers, la jeunesse états-unienne. C'est la fameuse French Connections et ses ramifications corses que les efforts coordonnés des États-Unis et du juge Michel commencent vers 1972 à mettre en échec. Mais à Marseille, le banditisme continue de faire couler le sang dans des accès de violence qui semblent laisser désemparés jusqu'aux édiles de la ville. Archives France Inter, novembre 72, le maire Gaston Defferre.
On règle ses comptes à coups de revolver à Marseille, Jean-Jacques Moria. Trois hommes ont été abattus depuis le début de la semaine. L'un est mort, les deux autres sont dans un état grave.
Ce sont chaque fois des propriétaires de bars ou de cabarets qui sont les victimes de ces règlements de comptes. Pourtant, la dernière victime en date, un garçon de 26 ans, Ange Mariani, sans profession, est inconnu des services de police. Mais après la vague d'incendie qui a éclaté dans les boîtes de la Côte d'Azur, on a l'impression que l'on manie beaucoup en ce moment l'allumette ou le revolver sur les bords de la Méditerranée.
Alain Tempolieri a rencontré le maire de Marseille, M. Gaston Defferre, qui lui a dit son inquiétude et aussi son indignation.
Monsieur le maire, que se passe-t-il la nuit à Marseille, une ville qui a 1 million d'habitants?
Il faudra que je le demande à la police. Il faudrait peut-être que je vous le demande à vous, qui êtes beaucoup plus jeune que moi, car moi, je ne sors jamais la nuit. En sortant de mon bureau le soir, vers 9h, je rentre chez moi et je vous ferai peut-être sourire en vous disant que j'ai appris par le journal le nom de la boîte de nuit qui a été attaquée ces jours-ci. Je ne savais même pas qu'elle existait.
Les règlements de compte des milieux interlopes marseillais qui défraient les chroniques, tout comme, peu à peu, la misère des quartiers nord, leurs grands ensembles depuis lesquels la vue sans pareil sur la Méditerranée ne suffit pas à atténuer les difficultés du quotidien. Même si les quartiers nord, ce ne sont pas que de grands ensembles et des cités, il y a aussi d'anciens villages, des zones pavillonnaires occupées par les familles des ouvriers qui, eux aussi, vont pointer chaque matin dans les dernières usines du port industriel. Musicalement, à cette époque, les disques qui filtrent par les fenêtres ouvertes sonnent souvent plus disco ou soul que rock. Pourtant, c'est là que se forme en 77, dans le quartier des Arnavaux, un groupe de rock que certains considèrent comme le seul groupe de rock véritablement marseillais, Quartier Nord. Quartier Nord, formé autour du chanteur Robert Rossi et du guitariste Alain Carazzo. Ils se sont rencontrés au lycée. Ils n'habitent pas dans les cités à proprement parler, mais dans les quartiers pavillonnaires, ce sont des fils d'ouvriers. Ils revendiquent leurs origines et de fait, c'est l'un des premiers groupes à chanter en marseillais, adoptant le parler populaire. Ses chevelus chavirent les amphis pleins à craquer des universités. Leurs textes regorgent de tentatives poétiques du style « La voisine du dessus, je la rêve en dessous, mais le mec du dessous est déjà par-dessus », mais aussi de dénonciations sociales. « Depuis que ma mère m'a foutu à l'école, je frappe les copains, je casse les bagnoles ».
Rock, le roi des rockers, je suis un demeuré du.
Dans une parenté avec les Parisiens de Trust formés quelques années plus tôt, Quartier Nord sort un premier album en 1980 contenant le titre éponyme Quartier Nord que voici. France Culture, Jukebox, ce soir Marseille, quand les minots s'électrisent.
Quartier Nord, Paris.
Quartier Nord, 1980, le groupe qui sortira par la suite 15 autres albums et dont l'activité se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Rapidement, Quartier Nord iront voir à Paris, même si, à la différence de nombreux autres groupes locaux, ils choisiront d'eux-mêmes d'en revenir, refusant de jouer le jeu des grandes maisons de disques pour poursuivre leur carrière chez eux. Exception à une règle qui, à l'époque, pousse la plupart des musiciens marseillais à quitter à tout prix la cité phocéenne, confrontée à un manque chronique de moyens. Certes, la ville, toujours aux mains de l'inamovible Gaston Defer, lance enfin quelques travaux comme ceux du percement d'une première ligne de métro pour faciliter les déplacements dans une ville congestionnée. Deux en un, la terre excavée est utilisée pour créer des plages artificielles histoire d'occuper les foules.
C'est en 1968 que la municipalité de Marseille avait décidé le principe de l'aménagement de la plage du Pradou. Le but recherché, offrir aux Marseillais un équipement de loisirs nautiques et de baignade à l'échelle des besoins de la population phocéenne. Des sondages sont venus étayer cette réalisation, la baignade et la natation étant pratiquées par 68% des Marseillais. Et si l'ouverture et l'inauguration de la première plage est effective depuis le 14 juillet 1977, aujourd'hui les travaux de la troisième tranche sont déjà bien avancés.
Dans ce Far West urbain, il faut se faire entendre. C'est alors qu'à la fin des années 70, les murs de Marseille se couvrent de graffitis annonçant une nouvelle explosion, celle de Nitrate, symbole de l'émergence d'une petite scène punk. Nitrate, formé en 78 en pleine révolte lycéenne, composé de membres qui aiment faire le coup de poing contre les services d'ordre des salles de concert afin de ne pas payer l'entrée. Leur leader, Max Sidney, est d'ailleurs intégré au groupe après avoir tenté de lui piquer du matos, un ampli. Le groupe pratique une sorte de punk hard rock, compose ses propres titres. Une fille fait partie de la formation originelle avant de quitter la bande, lassée des problèmes de drogue et des violences récurrentes lors des concerts. Nitrate se produit au théâtre du Merlan, créé dans le 14e arrondissement pour endiguer la misère sociale des quartiers nord. Il se produit également en juillet 80 au festival Rock Against Police, monté par de jeunes punks pour dénoncer les violences policières dans les cités des banlieues parisiennes, lyonnaises, mais aussi marseillaises. Nitrate, qui enregistre ensuite une première maquette, rejoignant Paris en bécane, se perdant dans les rues, étant raccompagné par les flics jusqu'aux locaux de leur maison de disques, dormant sur le parvis de Notre-Dame. La suite est à l'avenant. Le groupe cherche à arnaquer la maison de disques, trempe dans divers petits trafics de shit. « Pardonne-nous tous nos péchés », clameront-ils en 1983 dans une de leurs dernières maquettes, avant de se séparer.
Vendredi tu te mets à saigner, stigmatisé de la tête aux pieds, pas de chance pour ta chasteté. Pardonne-nous tous nos péchés, toi ma mère c'était ton métier. Pardonne-nous tous nos péchés, stigmatisé. We'll be right back. la tête aux pieds. Tous les vendredis tu te mets à saigner. Stigmatisé de la tête aux pieds. Pas de chance pour ta chasteté. Pardonne-nous tous nos péchés. Comme c'était ton métier. Pardonne-nous tous nos péchés. Stigmatisé.
Stigmatisé, 1983, le groupe Nitrate. Stigmatisé, mis au banc par les braves gens, les rockers marseillais se voient souvent ainsi ce début des années 80. Ils réclament régulièrement des aides à la mairie, la mise à disposition d'espaces pour répéter sans se mettre à dos les voisins, sauf qu'à part quelques associations, personne ne les entend. En 86, une centaine de jeunes rockers défilent même à l'initiative des jeunesses communistes sur la Canebière pour dénoncer la pauvreté de la politique culturelle municipale. Les changements ont finalement lieu dans la deuxième moitié des années 80. Le cours Julien se métamorphose. Le déplacement, dès 75, des grossistes de fruits et légumes plus au nord permet de repenser ce quartier en voie de déshérence, squatté par les punks et les zonards, canettes vides, mégots et papier gras. En 86, la municipalité se décide à y créer enfin la salle de concert qui manque aux musiques modernes de Marseille. Ce sera l'espace Julien, 600 places où se produisent les pointures françaises ou internationales de passage et des premières parties assurées par les groupes locaux. À quelques dizaines de mètres de là, dans une ruelle, un autre lieu voit le jour, baptisé la Maison Hantée. Pourtant, c'est à Paris que migrent les Wild Child, groupe formé en 75 et qui avait tourné un moment dans les clubs de la région, devenant les idoles des Hells Angels phocéens. Paris est le studio des Abbesses où en 82, les Wild Child étaient allés enregistrer leur premier album Speed Life of Mind, où l'on trouve ce Dusty Friends.
I'm
Dusty Friends, le groupe marseillais Wild Child de 1982. Les mois suivants, la presse nationale s'emballe, Philippe Manœuvre encense le groupe, mais malgré cela, leur choix de ne chanter qu'en anglais fait barrage à leur progression. Wild Child se sépare finalement en 1986. Au début des années 80, le magazine Best consacre un dossier à la scène rock de Marseille, pointant les insuffisances de la ville. Il faut dire qu'en dehors de l'espace Julien ou de la maison hantée tout juste créée, rien ne bouge. Le centre-ville de Marseille semble à l'abandon, à l'image des quartiers arabes de Belzunce ou de Noailles. Dans le quartier de la Belle de Mai, où depuis plus d'un siècle, les derniers ouvriers de la manufacture roulent les brunes ou les gauloises que fument les derniers consommateurs français, c'est encore le Far West. À la nuit tombée, les punks en cuir se font casser la gueule par les skins en bombers verts qui les traitent de pédés, de drogués. Ambiance. Malgré tout, les amateurs de rock continuent de faire la tournée des bars du Vieux-Port devant lesquels ils garent leur R5 ou leur 4L. C'est alors que se développe à Marseille une petite scène post-punk, que ce soit la New Wave élégante de Martin Dupont qu'on entendait en ouverture de cette émission, mais aussi le post-punk synthétique de Leda Atomica mené par Phil Spectrum et qu'on écoute en ce moment. Il y a aussi d'autres groupes plus confidentiels, à l'image d'Hôtel du Nord, emmené par Valérie Bendada et qui, en 1982, enregistre ce Rosemary Laguerre.
Quand nous parlons
Marie Laguerre, le groupe Hôtel du Nord qui, comme les autres, plie les Gaules trop tôt dès 1983, après avoir été, pour certains, envoyés faire leur service militaire et pour tous les autres, s'être fait dévaliser leur matériel lors d'un cambriolage. La suite de l'histoire du rock à Marseille, il faut la relire à l'aune d'une ville qui, ce début des années 90, s'enfonce dans le marasme en 10 ans. Elle a perdu 200 000 habitants et la crise fait s'envoler le chômage. Tandis qu'est lancée la transformation de l'ancienne manufacture de la Belle de Mai, qui bientôt mutera en un lieu de création artistique, le rock fait enfin l'objet d'un peu de considération, brièvement mise à l'honneur par l'hebdomadaire Tactique. Mais pour la plupart, les groupes sont snobés par le public local. Le rock ne connaît son heure de gloire qu'en 90-91, soit exactement le moment choisi par IAM pour exploser. IAM qui modifie la donne, attire les subventions, suivront Funky Family ou bien le reggae occitan du Massilia Sound System. La musique devient numérique, les baggies remplacent les jeans moulants, les sweats à capuche renvoient les cuirs au fond des placards. De nouveaux lieux ouvrent, comme la machine à coudre près de la rue d'Aubagne. Le rock local explose en micro-chapelles dont continuent, des années plus tard, d'émerger quelques groupes pérennes. Citons ici Kill the Thrill, les Neurotic Swingers, mais aussi les Cowboys from Outer Space, formés en 96 et qui, en 2003, sur leur quatrième album, sortaient cet élégant « When I am alone, I can't even stand myself ».
I'm falling, my friend. When I'm alone,
Ainsi se referme ce numéro de Jukebox. Ce soir, la face rock cachée de Marseille. À lire l'histoire du rock à Marseille, paru chez Le Mot et le Reste, le tome 1 signé Robert Rossi, et le deuxième que l'on doit à Pascal Escobar et qui vient de paraître, consacré à la scène rock depuis 1980. Jukebox à la préparation cette semaine, c'était Antoine Villoz et Marie Chauveau à l'INA. À la technique ce soir, c'était Marie-Claire Oumabadi, Agnès Catou à la réalisation, au micro à Maurice Chardot. À samedi 19h pour un prochain Jukebox.